La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneau.
Dernière partie de la semaine politique sur Europe 1, ici à Roland-Garros, face au cours central où s'affrontent Azarenka et Teichmann, avec maintenant un avantage à Azarenka, 5-4 dans le troisième set qui sera décisif. Et déjà un 15-0 au service. On parle d'un autre service. Gagnant ou pas, encore trop pour le savoir. C'est le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, le ministre qui fait polémique. Gilles Martin Chauffier, c'est vous qui signez cet article dans Paris Match. C'est très intéressant parce que on passe en revue le passé que certains observateurs considèrent déjà comme un ADN, comme une carte d'identité qui peut être problématique pour la suite de ses fonctions au gouvernement. Vous faites une comparaison avec son prédécesseur, qui était rattaché à ce qu'on appelle le récit national, peut-être pas forcément à sous point d'interrogation ce que pourrait faire le nouveau ministre. Et puis à cette phrase qui d'ailleurs est reprise, je l'ai soulignée dans le corps du texte, mais vous la reprenez effectivement au début du chapitre. C'est très intéressant. Il est toujours maître de ses émotions. Il sait refroidir les conversations brûlantes. C'est un roseau au nerf de chêne. Ça veut dire quoi exactement? Dans la contradiction?
C'est un homme extrêmement calme, c'est un homme très nuancé, c'est quelqu'un qui est, quand il a été nommé, objectivement, la plupart des journalistes ne savaient pas très bien, on n'est pas spécialistes tous de la sociologie indigéniste française, donc on ne savait pas bien qui était Pape Diaye. Il avait simplement une réputation, il avait été nommé directeur du musée de la Porte Dorée, du musée de l'immigration. On savait que c'était un intellectuel, et c'est un intellectuel respecté, car calme, pondéré, posé dans un univers qui peut être complètement hystérique, c'est-à-dire on voit bien les intellectuels qui poussent des hurlements dès qu'on aborde ce genre de sujet. Et il est arrivé, on a dit, c'est l'anti-Blanquer, c'est-à-dire c'est le déconstructionniste. En fait, la vérité, c'est que il porte effectivement, c'est un intellectuel qui a un agrégé d'histoire, qui a commencé par faire sa première thèse sur Dupont de Nemours. Comment Dupont de Nemours s'est installé aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis faire sa thèse, et là il a découvert les Black Studies, et il est devenu un
spécialiste. Rosa Parks, Martin Luther King, pas que, mais en tout cas les...
Non, les intellectuels, et les travaux des intellectuels sur l'esclavage, le poids de l'esclavage, les conséquences de l'esclavage les aujourd'hui. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est que Pape Diaye, on nous dit, attention, c'est Martin Luther King. Non, pas du tout. Pape Diaye, je vais vous dire la vérité, c'est Eugène de Rastignac. Il s'est vendu en disant je suis l'incarnation de la méritocratie. Non, il n'est pas l'incarnation de la méritocratie, parce que ça, il est l'incarnation de l'élitisme.
Vous parler.
Son père était polytechnicien, son père était directeur du port de
Picard. Parler de son enfance.
Oui, sa mère était une professeure. Il vivait à Bourg-la-Reine, dans une banlieue tout à fait paisible et prospère. Il a été au lycée Lacanal, qui est un des meilleurs lycées de la région parisienne. Il a fait ses études à Henri IV. Aujourd'hui, ses propres enfants sont à l'école alsacienne, qui est quand même le summum du communautarisme bobo. Si on fait du communautarisme et du communautarisme bobo dans son cas.
Ils s'appellent Rose et Lucien, ces enfants, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de prénom choisi sur...
Non, je veux dire, c'est pas du tout... On nous le présente comme une menace pour la société française. Pas du tout. C'est un professeur qui a des tendances. Évidemment, il a une analyse un peu racialiste de l'histoire. Mais ça, après tout, comment faire le 18... Au XVIIIe siècle, c'est un fait qu'un tiers du budget de la France venait des îles, et que les îles, c'était un système esclavagiste. Donc, il y a de quoi réfléchir. Aujourd'hui, c'est un fait que, quand vous naissez noir, c'est un handicap dans des tas de quartiers, etc. Donc, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas un sujet d'étude pour la sociologie. Simplement, quand on nous dit maintenant, attention, c'est l'homme qui va déconstruire la France, non, pas du tout. D'ailleurs, vous verrez que, comme d'habitude, la fonction fait l'homme. Et il est peut-être l'anti-Blanquer, mais Macron lui a donné comme ordre de mission les mêmes ordres qu'à Blanquer, c'est-à-dire réformer le bac, libéraliser l'école, la rémunération au mérite. Il le fera comme... Vous verrez qu'à mon avis, il va se glisser parfaitement dans l'habit.
Vous complétez Jacques Seray ou vous démentez, je pense tout d'un coup, alors Gilles Martin Chauffier et Jacques Seray et Emmanuel Soufi. Avec ce que vous venez de dire à l'instant, à Nicolas Hulot, qui d'une certaine manière s'est glissé aussi dans le portefeuille d'un ministre de l'écologie sous Emmanuel Macron, avec quand même un président qui décide de tout. Je pense sous votre contrôle.
Et en tout cas, oui, sur la forme, c'est un peu le même effet de surprise, c'est-à-dire premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était Nicolas Hulot, c'était la grande annonce, la grosse surprise, finalement, personne ne l'avait plus ou moins vu venir et arriver pour être nommé dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que personne n'avait vu venir Papendiaï, jamais cité. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé.
Nos pronostics qu'on avait tous juste avant.
Beaucoup de noms.
Un quart d'heure de l'annonce.
Mais c'est ça, jusqu'au début d'après-midi avant l'annonce, le nom de Papendiaï, personne ne l'avait vu venir. Et quand il a commencé à circuler, le premier réflexe des journalistes, c'est d'aller checker sa fiche Wikipédia, qui est-il, d'où vient-il. En tout cas, au niveau politique, beaucoup ne le connaissaient pas, tout simplement. Donc, en tout cas, oui, pour le comparer à Nicolas Hulot, c'est l'effet de surprise, en effet. Et après, sera-t-il l'anti-Blanquer ou pas ? On verra. En tout cas, parmi les ceux qui constituent son cabinet aujourd'hui, on a appris, en tout cas, c'est paru au Journal officiel hier, son directeur de cabinet, c'est un proche de Jean-Michel Blanquer.
Ouais. Donc finalement, ça va peut-être. Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, c'était ma question suivante, est-ce qu'il faut, Emmanuel Soufi, un anti-Blanquer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un anti-Blanquer au ministère de l'Éducation nationale ?
C'est une bonne question. On a peut-être plutôt besoin de quelqu'un qui va réconcilier le gouvernement avec les organisations syndicales. Ça a été un peu le souci de Jean-Michel Blanquer. Ah ouais, d'enseignants, de directeurs d'établissement. Souvenez-vous, il y a eu quand même des grosses manifestations avant le Covid ou après. On a un peu perdu maintenant dans la temporalité. Mais le fait est que quand même, hein, c'était une première. Hein, toutes les organisations syndicales, y compris les principaux d'éducation, les proviseurs, les directeurs d'établissement qui manifestent tous ensemble pour dénoncer des conditions d'enseignement. Franchement, c'était du jamais vu. Donc, il y a sans doute besoin d'avoir une personnalité, un ministre ou une ministre qui réconcilie en fait qui reprenne le dialogue social de façon plus apaisée que Jean-Michel Blanquer. Et le fait est que quand Papendiaï a été nommé, il y a eu très peu de communiqués, voire pas du tout, de syndicats enseignants pour dénoncer son arrivée. Donc c'est déjà un bon point.
Et même en allant les chercher, c'est-à-dire que nous médias on les sollicitait à Europe 1, on les a appelés.
Il y a pas de critique,
attendez, hein. On va voir. Non, peut-être pas tout de suite.
Une grande prudence, puis même une forme de satisfaction.
J'ai Roland Garros, je suis pas sûr de pouvoir vous répondre.
Parce qu'il y avait un profond divorce entre.
Il y avait même des compliments de la part de Mélenchon.
La
NUP a fait des compliments. Mélenchon a dit que c'était très bien.
Il s'est porté garant d'une certaine manière de ce ministre.
Si le calcul, c'est on calme le jeu du côté de l'éducation nationale, avec Papendiaï, c'est effectivement assez habile parce que c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, être tout à fait dans l'esprit de l'époque et d'esprit des syndicats. Ce qui est intéressant en même temps, et c'est là que ces sujets sont...
Attention à l'usage du « en même temps », parce qu'on va croire que...
Ce qui est intéressant, c'est que ça reflète la société française. C'est-à-dire que la société intellectuelle française, il y a eu pendant des années Sartre contre Aron. Ensuite, il y a eu pendant des années Bourdieu contre Gaucher. C'est-à-dire, et maintenant, le grand débat, c'est les universalistes contre les indigénistes. Et là, on avait un ministre qui était universaliste et bingo, on nous met l'incarnation de l'universaliste. On avait Blanquer était universaliste et on nous met le roi des indigénistes. C'est intéressant, ça reflète. C'est un peu la singularité de la société française. C'est une société intellectuelle où on aime bien débattre, où on aime bien argumenter.
D'où votre en même temps de tout à l'heure.
Oui.
Ça n'était pas pour rien. On parlait de Mélenchon à l'instant. Il y a eu une réaction de Mélenchon qui a été très très rapide, pratiquement je crois Jacques à 10-15 minutes après la nomination du gouvernement
et il est ravi.
Alors il est ravi, en même temps il mange son chapeau parce que tout le monde s'accorde à dire que à 15 jours des législatives, ça peut draguer certains électeurs qui allaient directement à la NUP.
Mais oui, mais c'est aussi un coup politique en nommant ce ministre.
C'est fait pour ça.
C'est aussi fait pour ça. En tout cas, à voir si la vision de Papendiaï s'accorde avec celle d'Emmanuel Macron sur l'éducation. On verra, mais en tout cas, à court terme, c'est un coup politique pour les élections législatives. Emmanuel Macron sait qu'il y a une partie de ses électeurs qui ont un ADN plutôt de gauche, de centre-gauche, qui peuvent parfois hésiter dans des circonscriptions avec des candidats socialistes investis par la fameuse NUPES. Et aujourd'hui, en nommant ce ministre de l'éducation-là, oui, en tout cas, c'est permis de montrer que, et d'autant plus quand on connaît l'électorat des enseignants, qui penche plutôt à gauche, en tout cas pour le dialogue à venir, en nommant ce ministre-là, c'est un signal clair qui est envoyé.
Emmanuel Sophie pour lui.
Après, il est aussi nommé pour appliquer un programme, une politique qui a déjà été un peu dévoilée par le président pendant la campagne, qui est celle de plus d'autonomie des chefs d'établissement pour nommer, recruter des enseignants. Ça, voilà. Le CAPES, on ne sait pas s'il va survivre. Tout un tas de points qui sont quand même extrêmement urticants et difficiles, délicats pour les organisations syndicales. Donc, elles ne sont pas dupes et les enseignants ne sont pas non plus dupes. Il n'y a pas Papendiaï et derrière, lui, il est là quand même pour ses marges de manœuvre, comme les autres ministres, hein, pas seulement lui, seront quand même assez limitées, parce que en haut, c'est Emmanuel Macron qui décide, hein, et l'administration.
Et l'administration.
Et Martin Chauffier.
L'administration, comment Allègre avait appelé le mammouth. Qui était maladroit, oui. Qui avait mis le feu au lac, mais enfin, c'est quand même un peu un mammouth. Donc,
j'ai entendu dire usine à gaz aussi.
L'administration centrale de l'éducation nationale, on ne fait pas ce qu'on veut. Le ministre n'arrive pas en disant, tiens, on change tel programme, on fait ceci, on fait cela. Tout ça demande des négociations sans fin à l'intérieur même du ministère.
Oui, chaque ministre de l'éducation peut témoigner de ça. Il y a un seul ministre de l'éducation qui est sorti, j'allais dire, indemne de son expérience.
Les seuls qui vous disent, c'est si on fait rien. Si on fait rien, tout ce
Il y en a eu des noms.
Jacques Lang en nomme un ou deux en disant, ils n'ont rien fait.
Oui, bon, c'est lui qui dit ça. Oui. D'accord. Quand on est sur une annonce telle que celle de Papendiaï, on est dans un combat politique, on est en même temps dans une continuité et une discontinuité du mandat. On met Borne, qui a été une de ses ministres les plus fidèles, qui a déjà occupé trois ministères, celui des transports, celui de l'écologie et celui du travail. Et il a fallu absolument mettre un trublion. C'est pas du tout le bon mot d'ailleurs, trublion. Il a fallu mettre un marqueur dans ce gouvernement pour se dire, non, finalement, ça n'est pas que du Macron d'avant. Alors que j'ai dit que finalement ce quinquennat n'allait pas être un quinquennat de continuité. Gilles Martin.
Je crois qu'Emmanuel Macron, c'est quand même un homme qui fait des coups. D'ailleurs, Elisabeth Borne, jusqu'à 12 heures avant qu'elle soit nommée, c'était pas elle qui avait été retenue.
Elle tenait la corde quand même depuis.
Elle tenait la corde depuis un moment, mais enfin, elle la tenait pas à d'autres moments. Et on avait dit que c'était Catherine Vautrin qui le ferait. C'est elle qui tenait sérieusement la corde. Et je pense que dans le cas de Papendiaï, il y a effectivement l'idée de faire un coup, comme il avait fait Hulot. Et c'est une espèce de débauchage intellectuel assez remarquable, parce que c'est vrai que Papendiaï, c'est une pointure intellectuelle. Donc je pense que s'il y a plus qu'un calcul, c'est simplement l'idée de réussir quelque chose qui va attirer l'attention.
Il est sur un siège éjectable. On parle souvent de ce gouvernement comme un gouvernement d'intérim et qui sera peut-être ajusté. D'ailleurs, il y a des cases qui manquent. Après les législatives, Jacques Sauré.
Certains ministres, ceux qui se présentent aux élections législatives, en effet, sont sur un siège éjectable, en tout cas pour les zones où il y a potentiellement risque. Oui. La première ministre aussi se présente. Pour les ministres où Emmanuel Macron ne souhaitait pas qu'il soit sur un siège éjectable, il leur a dit très clairement, par exemple, il l'a dit à Agnès Pannier-Runacher, qu'il ne souhaitait pas qu'elle se présente aux élections législatives parce qu'il comptait pour elle, justement, pour la transition énergétique. Papendiaï, aujourd'hui, ne l'est pas, tout simplement. Il ne se présente pas aux législatives, il ne l'a pas débauché pour finalement le virer dans deux mois, donc clairement non.
Voilà, Papendiaï est le ministre qui fait la polémique à lire dans Paris Match cette semaine. Merci à vous, Gilles Martin Chauffier. Merci, Jacques Seret d'Europe 1 et Emmanuel Soufi du Journal du Dimanche. Restez avec nous ici, Porte d'Auteuil à Roland-Garros. On revient dans un instant pour le journal de 19h. Ensuite, c'est Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, qui nous rejoint. Et à 19h45, service Pioline, le résumé des matchs de la journée avec Cédric Pioline, notre consultant, et l'ami Axel May. À tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.